c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Durant le mois d'août 1987, les autorités américaines font un véritable coup de force pour neutraliser l'équipe de Radio New York International qui a effectué plusieurs essais de diffusion. Le gouvernement américain, qui a bafoué toutes les lois, se voit obligé de renoncer à poursuivre pénalement l'équipe. Mais la station est tout de même hors d'onde. Le 31 octobre, le MV Communicator, qui hébergea Laser 558, puis Laser Hot Hit, et qui était silencieux depuis plusieurs mois, reprit brièvement du service. Une transmission fut entendue ce jour-là, mais elle ne connaîtra aucune suite et les projets de relance de programmes depuis ce navire ne verront jamais le jour. Dans la nuit du 25 novembre 1987, l'énorme mât de 91 mètres du Ross Revenge s'effondre, interrompant toutes les transmissions. Radio Monique ne reviendra pas sur les ondes. Caroline, ayant absolument besoin d'argent pour maintenir la radio et le Ross Revenge à flot, on lance World Mission Radio le 1er mai 1988 pour diffuser des programmes religieux lucratifs. Puis, le 30 mai, une première tentative de lancer un nouveau programme en néerlandais tourne court à la suite d'un problème d'émetteur. C'est finalement le 9 juillet que les programmes néerlandais débutent en journée sur la fréquence de Caroline. Quelques jours plus tard, à des milliers de kilomètres, le navire de Radio New York International reprend la mer pour regagner Long Island. Mais les autorités américaines en embuscade l'interceptent. On le voit, même s'il reste peu de radios émettant depuis la mer, leur actualité reste riche et mouvementée. Le 13 septembre 1988, Abi Nathan se rendit à Tunis, où vivait le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat. L'infatigable Nathan voulait parler de la paix. Mais comme on peut l'imaginer, ce ne fut pas du goût des autorités israéliennes qui l'arrêtèrent dès son retour. Il fut longuement interrogé, puis finalement relâché. On sait les autorités israéliennes peu respectueuses du droit dès lors qu'il s'agit de la question palestinienne. Et il faut encore une fois ici saluer le courage d'Abi Nathan qui est allé à la rencontre du dirigeant palestinien sans se soucier des risques de représailles des autorités israéliennes sur The Voice of Peace. Il n'y en eut pas. Aux États-Unis, au large de Long Island, l'équipe de Radio New York International finalise le retour de la station en essayant de prendre toutes les garanties vis-à-vis de la loi. Mais les choses s'annoncent plutôt mal. En effet, apparemment, une société britannique serait le nouveau propriétaire du Sahara et un pavillon de navigation émanant de la principauté de Sealand aurait été délivré. Le problème est que la principauté de Sealand n'a aucune légitimité juridique. Son histoire nous ramène à l'époque de la promulgation du Marine Broadcasting Offence Act britannique. Parmi les quelques radios qui émettaient depuis des forts marins, il y avait Radio Essex, dirigée par Roy Batts, patron pêcheur et homme d'affaires. Après l'arrêt contraint de sa radio qui se trouvait sur un fort à l'intérieur des eaux territoriales, Batts jeta son dévolu sur le fort de Rough Tower situé à l'extérieur du territoire britannique. De cet endroit, il clama vouloir redémarrer des émissions. Le fort fut l'objet d'affrontements entre lui et l'équipe de Ronan O'Reilly en 1967. Voulant faire cesser les troubles, la marine britannique tenta d'intervenir, mais fut aussi accueillie par les armes du clan Batts. Roy et son fils Michael furent interpellés, mais le tribunal les relâcha en déclarant qu'ils n'avaient pas la compétence juridique sur un espace qui se trouvait hors des eaux territoriales. Le clan Batts s'y réinstalla donc et le 2 septembre 1967, Roy proclama la création de la principauté de Sealand, qu'il dotera plus tard d'un drapeau, d'une constitution et même d'un hymne, excusez du peu. Le gouvernement britannique ne trouva rien à redire, à la fois parce que le fort était hors de sa juridiction, mais aussi parce qu'il ne s'y passait a priori rien de répréhensible. mais si la principauté de Sealand commence à délivrer des pavillons de navigation, les choses risquent de changer. Bien évidemment, comme le gouvernement britannique, son homologue américain ne reconnaît aucune légitimité d'un pavillon de la principauté de Sealand.
Unbelievable.
I can't believe it.
Unstoppable. Unboardable. Unsinkable. Unbeatable. Radio New York International. It's unavoidable.
Dans la soirée du 15 octobre, sur la fréquence 1620 kHz, 185 mètres, on put entendre de la musique non-stop et un message d'identification pour Radio New York International. La diffusion se poursuivit toute la nuit. La Federal Commission of Communication réagit rapidement, mais en prenant cette fois des précautions. Elle saisit un tribunal pour obtenir une injonction lui permettant de faire cesser les émissions. Une fois l'injonction obtenue, des fonctionnaires embarquèrent à bord d'un patrouilleur des gardes-côtes en direction du Sahara. Mais ces derniers refusèrent d'aborder le navire radio pour que les fonctionnaires de la FCC puissent y monter, expliquant que le bateau n'était pas dans les eaux territoriales. Les gardes-côtes ont alors demandé à un membre de l'équipage de se présenter sur le pont pour que l'on puisse lui remettre l'ordonnance du tribunal. À bord du Sahara, on se méfiait. Pour recevoir l'injonction, il fallait que le patrouilleur se colle au Sahara. Les fonctionnaires de la FCC pourraient bien en profiter pour forcer le passage et s'introduire sur le navire radio. On refusa donc la proposition. Les gardes-côtes lurent donc les dispositions de l'ordonnance en utilisant la radio de bord. Après quelques minutes de réflexion, Josh Hill, le capitaine du Sahara, informa que l'équipage allait cesser les transmissions. À l'intérieur du navire radio, on craignait que le refus d'obtempérer ne se traduise par une nouvelle visite violente des fonctionnaires de la FCC et que cela ne se solde par une nouvelle destruction des installations radio comme cela s'était produit un an auparavant. L'émetteur fut donc arrêté. Le 21 octobre 1988, une nouvelle radio offshore débute des essais de transmission au large des eaux territoriales israéliennes. Elle s'appelle Harutz Sheva et elle est apparemment supervisée par l'organisation Gush Emunim, située à l'extrême droite de l'échiquier politique israélien. Cette organisation représente les colons qui s'installent de force en Cisjordanie et prônent l'idéologie du Grand Israël. De façon surprenante, les créateurs de cette radio ont d'abord pris contact avec Abinathan, en lui proposant d'acheter du temps d'antenne sur la voie de la paix. Nathan refusa, ce qui semble logique vu son engagement pour le dialogue entre juifs et arabes. Misant alors sur les difficultés financières fréquentes de The Voice of Peace, Gush Emunim proposa carrément de racheter le Peace Ship. Nathan refusa encore. Alors, l'organisation décida de trouver son propre bateau qui arriva en vue de Tel Aviv dans la nuit du 21 octobre 1988 et les programmes tests débutèrent le matin même. Seulement constitué de musique hébraïque et de débats, la radio a l'ambition de diffuser une opinion qu'elle estime non représentée par les médias officiels, une idéologie religieuse et ultranationaliste. En mer du Nord, les problèmes techniques empêchant la diffusion simultanée d'un programme anglais et néerlandais sur le Ross Revenge sont en passe d'être résolus. Et le 22 octobre, Radio 558 est diffusée simultanément sur les fréquences 558 et 819. Une annonce signala logiquement que Radio 558 allait redevenir Radio 819. Le 5 novembre, le programme néerlandais ne fut donc plus diffusé que sur 819 mètres et Caroline put reprendre l'intégralité de la fréquence 558.
Als je nu niet weet wat kwaliteitsradio is, zul je er wel nooit achter komen. 819 streelt de oren. Dag in, dag uit. Met de beste klanken die je kunt wensen. 819. Doelbewust. Vooruitstrevend. Herkenbaar. En baanbrekend.
Hey, hi, Kev.
Quelques semaines avant la fin de l'année 1988, un tribunal de New York se prononça sur le cas de Radio New York International et prolongea de façon définitive l'ordonnance de restriction qui avait été délivrée à l'encontre de la station durant l'été. Le tribunal rendit aussi un avis pour le moins étrange. Il reconnaissait l'autorité de la FCC sur tout programme radio destiné aux États-Unis, et ce, quelle que soit l'origine de l'émission. Si l'on poussait le raisonnement au bout, cela supposait donc que la FCC avait une capacité juridique pouvant s'exercer sur n'importe quel média au monde dès lors qu'un programme était considéré comme potentiellement destiné au public américain. Mais Al Weiner ne voulut pas céder et réaffirma que sa radio étant située hors des eaux territoriales, elle ne tombait pas sous la juridiction de la FCC. Il fit donc appel de la décision. Mais en janvier 1989, sans que cela ait un rapport direct avec l'affaire Radio New York International, la limite des eaux territoriales américaines fut étendue à 12 000 nautiques. Si le Sahara restait à son ancrage, il se retrouverait donc dans les eaux territoriales. Au Proche-Orient, la voie de la paix connaît à nouveau des problèmes financiers et aussi des soucis de personnel. À la fin de l'année 88, il n'y avait plus que deux DJ à bord du Peace Ship. Et Abinathan déclara que 50 000 dollars par mois étaient nécessaires pour maintenir la radio en onde, mais que la publicité ne rapportait presque pas d'argent puisqu'elle émanait surtout d'accords d'échange. Durant le mois de février 1989, Radio Caroline et 819 furent silencieuses à de nombreuses reprises, à cause de problèmes techniques. La continuité des programmes du service néerlandais fut également affectée par le manque de DJ et de programmes préenregistrés. La cause était bien évidemment les difficultés d'approvisionnement du Ross Revenge. À partir du vendredi 24 mars 1989 et durant tout le week-end, Radio Caroline fête son 25e anniversaire en proposant la diffusion des 1001 titres les plus représentatifs de l'histoire de la station.
Good morning, welcome to the Caroline 1001 Classics. We're going to be taking you right through until Easter Monday with the very best music as voted for by you, the listeners, to Caroline 558. I'm Steve Conway.
And I'm Caroline
Martin. And we're going to be taking you through until 12 midday today. Here's number 1001. Stay tuned to us all weekend. Christopher says there ain't nowhere you can go when you're waiting for the hurricane.
Caroline a survécu aux lois anti-radio offshore, à la surveillance active des gouvernements de l'Europe du Nord, au blocus organisé par les autorités britanniques durant la deuxième moitié de l'année 1987. Elle a aussi survécu aux tempêtes et à la perte de son navire historique. Quelle que soit la suite de son histoire, la radio est entrée dans la légende. Pour fêter cet anniversaire historique, un ferry avec plus de 500 personnes à bord effectua une traversée entre la Grande-Bretagne et la Hollande le dimanche 26 mars. Ronan O'Reilly était à bord avec les fans.
That's number two, a great song John Lennon imagined, sums up really everything this station stands for.
Yeah, that's right. At this point, I think we should thank everyone that's presented these top 1000. Steve Conway, Chris Kennedy, Dave Asher,
Caroline Martin, of course, Nick Jackson and Ian Miles,
Mike Dixon, Tony Kirk, Paul Shelton.
I suppose we ought to give ourselves a self-congratulatory pat on the back. Very good, Mike. Well done.
Very good, Rob.
My name's Rob Harrison, yes. Right, just a quick word before the number one. Thanks very much to all of you listeners for voting for your records. Really, it wouldn't have been possible without you.
It's been most interesting.
It's
actually
been wonderful, hasn't it?
It'll be very interesting to see what came in the mail. All sorts of wishes, dedications, all sorts of things, and some wonderful cards as well, some very innovative cards. More about that at a future date.
Just a quick word for Caroline 819 listeners. Our normal programs will start tomorrow night. Tonight we'll be relaying the personal choices of the DJs on Caroline 558. That will be going out from 10 o'clock. And also next week, if you missed our Top 200 album rundown, that'll be going out between 10 and midnight every evening, starting from number one down, so you'll have another chance to hear it.
Right, well, we'll keep you in suspense for no longer.
This is number one. Bob Dylan and the Hurricane.
Au large des côtes israéliennes, Aritz Sheva va séduire très rapidement un large public. Seuls deux DJ sont à bord du navire. Le reste des programmes est enregistré à terre et la diffusion s'interrompt pendant le Shabbat. La direction de la station tente de donner une image ne collant pas trop à l'extrême droite en expliquant qu'Aritz Sheva est une radio qui prône l'amour de la nation et de la terre d'Israël. La proximité avec le mouvement des colons de Cisjordanie fut aussi minimisée. La radio devint vite un support publicitaire important. À partir du mois de juillet 1989, l'ambiance se tend à bord du Ross Revenge. En effet, l'équipage et les DJ ont bien noté la présence d'un patrouilleur ancré à la limite des eaux internationales. Le navire n'est pas présent en permanence, mais vient en observation pendant des périodes de 4 ou 5 jours. À l'antenne, personne ne rapporte le fait. Pourtant, la pression va encore monter d'un cran lorsqu'un pétrolier néerlandais s'approcha du navire radio pour lui fournir une cargaison. Deux vedettes de la police britannique ainsi qu'un bateau du ministère du Commerce et de l'Industrie surgirent. L'équipage du pétrolier fut averti qu'il enfreignait la législation internationale et de nombreuses photos furent prises. Le Ross Revenge fut aussi plusieurs fois survolé par un avion et un hélicoptère qui volaient à basse altitude. Ce dernier prit des photos de l'activité à l'intérieur du navire. Il tenta apparemment de prendre des clichés des DJ à travers le hublot du studio. Mais les auditeurs ne sont toujours pas mis au courant. Au début du mois d'août, des rumeurs persistantes firent état d'une intervention directe sur le Ross Revenge. Le 16 août, les autorités néerlandaises démentirent l'information. Mais dès le lendemain, une vague de perquisitions fut déclenchée en Hollande et en Belgique au domicile de personnes soupçonnées d'être en lien avec World Mission Radio 819 ou Caroline. Le même jour, un bateau des gardes-côtes britanniques navigua autour du navire radio et s'immobilisa à proximité. Un fonctionnaire demanda à monter à bord, mais l'équipage refusa. Quelques minutes plus tard, c'est un Néerlandais qui s'avança sur le pont du Landward et informa l'équipage que les locaux de Radio 819 avaient été perquisitionnés et que toute l'équipe avait été arrêtée. Il ajouta que des arrestations avaient aussi touché certains annonceurs. L'homme demanda que les émissions soient immédiatement arrêtées. À bord du Ross Revenge, plusieurs personnes firent valoir que comme il était impossible de vérifier immédiatement les dires du fonctionnaire néerlandais, le mieux serait que quelques personnes acceptent d'embarquer sur le Landward afin d'aller constater la situation réelle à terre. Mais lorsque le patrouilleur revint et que la décision de l'équipe du Ross Revenge fut communiquée, les fonctionnaires à bord du Landward affirmèrent que les dispositions avaient finalement changé et que tout le monde devait quitter le navire radio sans distinction de nationalité. Bien évidemment, l'équipage du Ross Revenge refusa, mais le Landward ne s'éloigna pas. Même si aucun message ne fut diffusé à l'antenne, les programmes furent un peu perturbés. Et à terre, Peter Chicago comprit qu'il se passait quelque chose sur le Ross Revenge. Dans la soirée, il rejoignit le navire radio à bord d'une petite embarcation pour prendre le commandement des opérations. Il entreprit d'abord de cacher du matériel et des pièces vitales pour la diffusion et décida de couper tout contact avec le Landward toujours en faction. Le 18 août, les programmes des deux radios débutent normalement. mais à 10h30, les émissions de Radio 819 sont interrompues par la diffusion à plusieurs reprises du titre Ring Ring du groupe ABBA. Quelques minutes plus tard, sur l'antenne de Caroline, trois disques se succèdent sans l'intervention de l'animateur. Imagine de John Lennon, The Lady in Red de Chris de Burgh et Love You to Know de Loving Awareness. Dans les deux cas, ces disques sont des messages codés à l'intention des bureaux terrestres des deux stations, indiquant qu'un problème grave touche le Worth Revenge. À midi, les programmes de Radio 819 cessent et Caroline est relayée sur les deux fréquences 558 et 819. Un peu plus tard, ce sont les programmes de World Mission Radio qui sont interrompus. Dans la soirée, les DJ relatent enfin la situation à l'antenne. Ils parlent du patrouilleur Landward, présent depuis la veille, mais qui vient d'être rejoint par un navire néerlandais, le Volans, à bord duquel se trouvent des policiers et des fonctionnaires néerlandais, ainsi que d'autres hommes en civil. Caroline continue à diffuser.
919, Europe's voice of loving awareness from the North Sea,
like,
and all that.
Like wow, man.
Like wow, man.
Yeah. Isn't this interesting? I'm in two places at once this evening.
You are, yes. As you said earlier, I wouldn't change a thing. Sorry we're on a bit late tonight, but...
Le lendemain matin, 19 août, les programmes distincts reprirent sur les deux fréquences. Mais Radio 819 diffusa surtout de la musique non-stop. Dans la matinée, le Landward reprit contact par radio avec le Ross Revenge pour demander à l'équipage de prendre une décision quant à l'évacuation ou non du navire. Un ultimatum fut fixé à midi. L'équipage ne donna pas suite. Quelques minutes après midi, depuis le Ross Revenge, on put apercevoir que le Volans quittait sa position et se rapprochait. Peter Chicago lança alors un appel à destination des gardes-côtes qui resta sans réponse. Vers 12h30, il intervint alors à l'antenne pour informer les auditeurs de la situation.
This is a special announcement from the Radio Caroline ship Ross Revenge. At the moment we have a large Dutch tug, the Volans, whose intentions are not clear, but which seem to be, they seem to have the intention of taking this ship from the high seas. I'm speaking on behalf of the crew and the broadcasters on the vessel Ross Revenge. We've had previous warnings earlier on that some kind of action was contemplated. At the moment, on our starboard side, we have the Dutch tug, the Volans, which seems to have the intention of taking this ship, the Ross Revenge, from her mooring in the international waters at the South Falls Head. We'll try and let you know what's going on as the program continues, but I have an idea that events will move very quickly. Anybody hearing this broadcast perhaps could help us by telephoning the Coast Guard to register a complaint, possibly by contacting anybody in authority that you think could help us. This is the radio ship Ross Revenge, broadcasting from the international waters of the North Sea. And for the moment anyway, we'll return you to our regular programs. Thank you.
Depuis le Volans, qui était maintenant collé au Ross Revenge, un policier néerlandais réclama de monter à bord pour vérifier les documents d'immatriculation du navire. L'accès lui fut refusé. Il informa que les autorités avaient le droit de vérifier les documents de navigation de n'importe quel navire et que le capitaine était tenu de les présenter. Peter Chicago répondit que le Ross Revenge était immatriculé au Panama, mais refusa de présenter le moindre document. Pendant ce temps, à l'antenne, les animateurs ont décidé d'informer en direct de la situation.
This is the radio ship Ross Revenge. Radio Caroline broadcasting from the international waters of the North Sea. It appears that we are now being boarded by a Dutch tug. We are being boarded by a Dutch tug. We hope to continue broadcasting for as long as humanly possible.
À bord du Volans, les policiers insistèrent encore pour voir les papiers. Mais Peter Chicago tenait bon. Soudain, un policier sauta sur le pont du Ross Revenge et frappa Peter Chicago qui tomba à terre. Le Volans était presque aussi grand que le Ross Revenge et de nombreux hommes se trouvaient à bord.
Representatives of the Dutch government have just boarded the Ross Revenge, at the moment, one of the people that's come aboard has been violent towards our engineer. We haven't a clue what's going on at the moment.
All we can say is these guys are definitely not here to take photographs.
No, and at the moment we have the DTI standing by at the rear of the ship. They are not, at this stage, appearing to do anything. We're going to make inquiries whether or not they are going to allow this behaviour. As I say, there has been some violence, and it's on behalf of the... It's the Dutch people that have been doing it. We'll get back to you.
Right. In the meantime, let's send these people a message from us. Here are the Beatles and Caroline, and all you need is love.
Les policiers réclamèrent à nouveau de voir les documents d'immatriculation. Et face à cet acte de violence, Peter Chicago les présenta enfin. Les policiers déclarèrent alors qu'ils étaient venus pour démonter le matériel d'émission radio ainsi que les émetteurs. Et que pour éviter tout dégât inutile, il vaudrait mieux que l'équipage coopère. Peter Chicago tenta à nouveau de s'interposer, mais il fut à nouveau bousculé et menacé d'une arme. Une trentaine d'hommes investit alors le Ross Revenge. Parmi eux se trouvent des policiers néerlandais, mais aussi ceux qui semblent être des hommes de main. Quelques minutes plus tard, c'est la DJ Caroline Martin qui est frappée en voulant empêcher les assaillants de pénétrer dans le compartiment des émetteurs.
Caroline 558, we will be leaving the any moment now. The boarding party are finding their way to the transmitter room and they are going to dismantle all our broadcasting gear, take the studio to pieces, dismantle the generators and then incapacitate the ship totally. We'll also be taking staff with them, but I'm not too sure exactly how that one works at the moment. But they are now making their way downstairs. We will be going off the air any time.
Nigel, this is the saddest day of my life, and I think it's going to be a sad day for a lot of people.
Yeah. I know, but we just can't fight them. There's too many of them. They have a tug the size of the Ross, and it's not the end, I'm sure, although it's easy to say that.
The Ross Revenge is not the only ship in the world. We will be back, we can assure you that.
Caroline, we'll be back. Caroline will return.
The 19th of August, 1989, is the day the UK, Great Britain, became a...
À 13h09, les deux émetteurs en ondes moyennes sont coupés.
Right, as it stands, the gentlemen are going to remove the transmitter from the ship and take a few other things as well. What they have just told us is that we are free to go back to Holland with them, where there will be no more charges pressed. We will also be able to go back to England, and there will be no charges pressed there. Alternatively, we can stay on the Ross Revenge. Now, would you like to say anything, sir?
Before we go off. All right, it's gone. It's gone.
Le matériel radio est démonté et transféré sur le Volans sans ménagement. De nombreux objets ont été projetés d'un bateau à l'autre et beaucoup de choses furent cassées. Les émetteurs, par exemple, qui étaient assez imposants, ne pouvaient être transportés facilement. Ils furent donc détruits à coups de masse. Le même sort fut réservé aux générateurs, et il fallut persuader les assaillants d'en épargner un qui était nécessaire à l'éclairage du bateau. Toute l'équipe hollandaise de Radio 819 décida de regagner la terre à bord du Volans ainsi que deux Britanniques. Le reste de l'équipe resta à bord du Ross Revenge. Un journaliste de la BBC qui a pu monter à bord du navire radio après la fin du raid témoigne.
The true damage which was caused, we managed to get on board, got on board and firstly were taken to the studio area which was virtually non-existent. All the studios on the ship had been completely stripped of equipment. Quite an amazing scene. From the studios we were then taken to the record library which was totally empty. 18,000 records had been removed from the library, again by the Dutch, and the record library was absolutely empty, apart from one record which had been left on the ship, which was Kylie Minogue's current single, which seems a little odd.
What an exciting life you lead.
Well, quite, yeah. It was quite Words can't describe the feeling you actually get as you sort of jumped on board, and there were some very desperate people along on the deck of the ship at the time. The Dutch.
La soudaineté et la violence de l'attaque mettent mal à l'aise. Et les autorités néerlandaises tentent de se justifier en expliquant que depuis plus d'un an, plusieurs pays se plaignaient d'interférences entre les émetteurs du Ross Revenge et les communications maritimes. Le ministre des Télécommunications néerlandais ajouta que des rumeurs sur la possible arrivée d'un nouveau bateau émetteur avaient aussi pesé dans la décision d'intervenir. Le raid était visiblement en préparation depuis plus d'un an. Il ajouta qu'il y avait des doutes sur l'immatriculation du Ross Revenge. Il semble malgré tout qu'encore une fois, les autorités néerlandaises ont bafoué les règles du droit international, comme pour l'arraisonnement du navire de Radio Paradise le 1er août 1979. C'est en tout cas la conviction de l'équipe de Caroline qui va immédiatement mandater un cabinet d'avocats pour instruire une plainte pour piraterie, agression et violence volontaire, ainsi que destruction de matériel pour un préjudice estimé à 500 000 livres. Dans un premier temps, le DTI nia sa participation directe au raid, affirmant que ses fonctionnaires n'étaient pas montés à bord du Ross Revenge, mais qu'à la demande du gouvernement néerlandais, ils avaient simplement assuré une présence pour sécuriser l'opération. Or, des journalistes étaient présents sur le navire radio au moment de l'intervention et ils ont pris des photos à partir desquelles il leur a été très facile d'identifier des fonctionnaires britanniques en train d'interroger l'équipage. De plus, certains des hommes de main venus en renfort aux policiers néerlandais étaient ivres et ont laissé des bouteilles vides à bord du Ross Revenge. Indice que les avocats de la radio ne vont pas se priver d'exploiter pour y relever notamment des empreintes digitales. À terre, les fans de Caroline manifestent, mais ils créent surtout une chaîne de solidarité pour reconstituer une discothèque et lever des fonds afin de soutenir l'action en justice. Concrètement, ils envoient aussi des colis de nourriture vers le Ross Revenge qui est resté au large avec un équipage conséquent à bord. Même si le bateau est maintenant silencieux, la surveillance est plus discrète, mais les autorités maritimes britanniques et néerlandaises restent vigilantes. La sollicitude des fans depuis la Terre est très importante, car l'équipage a été choqué par la violence de l'intervention. Mais Peter Chicago a intuitivement compris que la meilleure des thérapies face à ce choc, c'est la reprise des émissions. C'était les DJ de la Haute Mer. 39e épisode.